Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
La levée du secret médical des enfants, un amendement gouvernemental au projet de loi de vigilance sanitaire voté cette nuit autorise les directeurs d'établissements scolaires à connaître le statut vaccinal des élèves contre le Covid-19. On est avec Christine. Bonjour Christine.
Oui, bonjour Pascal et toute l'équipe.
Vous êtes assistante de direction dans un collège précisément. Vous trouvez ça bien ou pas bien?
Bah, pour l'instant, non, parce que pour l'instant, ce n'est pas un vaccin obligatoire. Donc, pour l'instant, on doit attendre vraiment les directives ministérielles.
Le rappel des titres avec Amandine.
Et 120 000 foyers toujours privés d'électricité après le passage de la tempête Aurore. C'est le cas notamment en Normandie, où la circulation des trains reste toujours très perturbée. Partout ailleurs, retour progressif à la normale. C'est le cas notamment en Ile-de-France, sauf pour le RER C. Il a soufflé, on le rappelle, jusqu'à 175 km/h à Fécamp. L'actualité, c'est aussi le pass sanitaire. Premier feu vert des députés pour son extension jusqu'au 31 juillet. 135 voix pour, 125 contre. Le texte doit désormais passer au Sénat. Ce sera le 28 octobre prochain. Et puis en pleine tension, en plein bras de fer entre la Pologne et l'Europe, Emmanuel Macron s'entretient en ce moment même avec le Premier ministre polonais. Rencontre bilatérale qui a lieu à l'intérieur de l'aéroport de Bruxelles où les chefs d'État sont en train d'arriver pour le Conseil européen qui doit débuter cet après-midi à 15h. La météo Peggy, c'est encore bien gris cet après-midi.
Et oui, vous l'avez dit, on parle plus de tempête, mais c'est vrai qu'on parle d'un ciel de traîne. Amandine, ça veut dire que l'ensemble du pays est entre nuages, éclaircies, quelques averses. Et encore du vent, même s'il faiblit cet après-midi entre 50 et 60 km/h. Rien à voir avec ce qu'on a vécu. Donc ce matin, il a fait beau sur une partie nord. Ça se couvre cet après-midi. La traîne devient même active, avec beaucoup de nuages. Des averses fréquentes entre la Bretagne, le Poitou, le centre, l'Île-de-France, en allant vers la Champagne. Et une fois les pluies passées, les éclaircies vont revenir sur les côtes de la Manche. Puis du sud-ouest aux frontières de l'est, là, on a des averses beaucoup plus rares et quelques éclaircies. Des averses même sous forme de neige sur les Pyrénées, au-dessus de 2000 mètres. Et du soleil, il y en a quand même. Direction le sud-est cet après-midi, ça se dégage entre la Provence et le Languedoc. Et évidemment, vous vous en doutez, les températures, elles baissent aujourd'hui. On se rapproche des valeurs de saison parce qu'on était quand même bien au-dessus.
Oui.
14 à Cherbourg et Nancy.
28, je le rappelle.
À Biarritz. Hein.
Oui.
15 à Reims, ainsi qu'à Paris, 18 à Lyon, 20 à Bordeaux, 21 degrés à Montélimar et 23 à Toulon.
Et belle amélioration pour demain.
Et oui, retour d'un temps sec, lumineux demain. Alors sur les trois quarts du pays, sauf entre le sud-ouest en allant vers le Jura, le ciel sera couvert avec de rares averses. Et puis sur cette zone, on retrouvera au fil des heures quelques éclaircies. Du très beau temps entre les Charentes et l'Alsace et dans le sud-est. Et dans l'après-midi au nord, on aura un petit peu plus de nuages, mais globalement, ça restera sec avec des températures encore plus fraîches. On aura quelques gelées matinales, donc il faudra se couvrir de 1 à 5 degrés au nord.
C'est de saison, ma bonne dame,
c'est
il va vous
dire. C'est de saison, mais voilà, exactement,
c'est normal. On arrive au 1er novembre, hein, et c'est les vacances en plus demain.
15 demain, jours les de vacances scolaires.
Exactement,
vacances scolaires,
pour tout le monde. Donc, et les maximales de 12 à 16 degrés au nord, 17 à 23 au sud.
Régulièrement, il y a encore à la Toussaint des gens chaque année qui sont sur les plages. Parfois, ça peut se voir. Donc, tant mieux s'ils peuvent profiter un peu de beau temps. Merci, Peggy.
Avec plaisir.
Merci, Amandine, 13h05.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
Je vous lis l'amendement qui a été voté cette nuit. Jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021-2022, les directeurs des établissements d'enseignement scolaire du premier et du second degré et les personnes qu'ils habilitent spécialement à cet effet peuvent avoir accès aux informations relatives au statut virologique des élèves, à l'existence de contacts avec des personnes contaminées, ainsi qu'à leur statut vaccinal. Ça a été voté cette nuit. En clair, c'est la levée du secret médical des enfants. Est-ce que ça choque? Est-ce que ça ne choque pas? Nous sommes avec Christine, assistante de direction d'un collège. Qu'en pensez-vous et que vous disent surtout les parents que vous avez vus ce matin?
Pour l'instant, nous n'avons vu aucun parent, parce qu'actuellement, donc, c'est passé cette nuit, donc il faut un temps de réaction. Comme vous venez de le dire, on est en vacances demain soir. Je veux dire, pour l'instant, nous, on ne demande pas le pass sanitaire. On a des élèves qui font des activités à l'extérieur, comme par exemple, ils ont été au cinéma. C'est des séances uniquement scolaires et le pass sanitaire n'est pas demandé. Après, on a des voyages de prévus et là, il faudra qu'on s'adapte aux voyagistes. Si les voyagistes demandent le pass sanitaire, on devra le demander. Mais pour l'instant, au niveau de la hiérarchie, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, rien n'a été demandé encore. Il n'y a pas eu de circulaire nous demandant d'avoir le pass sanitaire pour tous les élèves.
J'entends bien, parce que le pass sanitaire existe donc pour les activités scolaires et n'existe pas à l'école, hein, nous sommes d'accord. Ça, c'est important de le préciser. Mais c'est vrai que personne n'est dupe. C'est-à-dire que le pass sanitaire, il oblige les enfants et puis les adultes aussi à se faire vacciner depuis maintenant le 13 juillet. Ce qui est intéressant dans ce nouveau statut, ce qui pose souci, c'est pour les parents qui ont un enfant qui n'est pas vacciné. Nous sommes d'accord.
Oui. C'est-à-dire que les parents, c'est leur choix. Nos enfants qui sont en sixième, voilà. Qui ont moins de 12 ans.
Voilà. Oui, ou même des parents qui n'ont pas voulu faire vacciner leur enfant entre 12 et 18. Il y en a beaucoup.
Il y en a
quelques-uns, en tout cas.
Bon. Oui.
Donc là, le risque, moi, je vois, c'est que cet enfant qui n'est pas vacciné, il peut être montré du doigt. Je ne dis pas qu'il sera harcelé dans la cour, je ne dis pas qu'on le saura forcément, je ne dis pas que l'information fuitera. Je dis en tout cas que c'est possible de lui faire peser une sorte de pression sur cet enfant parce qu'il n'est pas vacciné.
Bah, au jour d'aujourd'hui, comme vous venez de le dire, ce ne sera pas communiqué. Ça va être si on a des listes avec des élèves qui sont vaccinés ou non, la liste, elle sera au niveau de la direction, elle sera au niveau du secrétariat et au niveau de l'infirmerie.
Mais c'est pour en faire quelque chose. Donc cet enfant, il sera peut-être sorti de l'école un jour, pourquoi pas, je n'en sais rien, s'il n'est pas vacciné. En fait, c'est quoi la justification de cet amendement ?
Mais là, on ne sait pas encore. On n'a aucune directive du ministère. Nous, on ne fait rien tant que nous n'avons pas de directive du ministère de l'Éducation nationale. Donc là, comme vous venez de le dire, on est en vacances demain soir. Peut-être qu'on aura quelque chose en retour.
Olivier Véran, c'est intéressant d'ailleurs sa réponse. Il a dit c'est pour protéger les enfants. Mais que je sache, le vaccin ne protège pas contre la transmission du Covid. Il peut atténuer, mais il ne protège pas. En revanche, il protège contre les cas graves. C'est pour ça qu'on est sur des sujets, je trouve, qui sont difficiles à comprendre. Mais peut-être va-t-on avoir une meilleure explication dans les secondes qui arrivent. On marque une première pause. Merci Christine. Et à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Vous l'avez dit, un amendement fait beaucoup réagir. Le gouvernement veut permettre aux directeurs d'école et chefs d'établissement de connaître le statut vaccinal, de savoir quels élèves sont vaccinés contre le Covid-19. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est justifié hier.
Il n'y a pas systématiquement la fermeture d'une classe, c'est ce que nous souhaitons développer. Et pour éviter la fermeture d'une classe, il faut permettre aux directeurs d'établissement de savoir si les élèves sont oui ou non protégés contre la Covid.
Aujourd'hui, la confiance repose sur une simple attestation des parents. Rodrigo Arenas, le porte-parole de la FCPE, a exprimé son opposition à cet amendement. Il était l'invité de RTL Petit Matin avec Jérôme Florin.
Là, on est dans une sorte de délire qui inventerait une sorte d'ennemi de l'intérieur qui s'appellerait les parents, qui enverrait les enfants malades avec la Covid, contaminer leurs enfants, contaminer les camarades de classe, contaminer les enseignants, contaminer tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cette conception des parents ? C'est évidemment pas la réalité.
Parents, qu'en pensez-vous justement ? Faut-il lever ce secret médical à l'école, 3210, 3210.
Moi, j'aime bien essayer de comprendre à travers des situations concrètes. Je voudrais savoir ce qu'un chef d'établissement va faire de ça. Il apprend qu'un élève n'est pas vacciné. Nous sommes d'accord. Qu'est-ce qu'il en fait si le virus est dans la classe? Donc, l'enfant qui n'est pas vacciné sort de la classe et les autres enfants qui sont vaccinés restent dans la classe parce qu'il y a un cas de Covid? C'est ça que je ne comprends pas. Je voudrais savoir à quoi sert cet amendement. Et la justification que je lis, l'objectif est de faciliter l'organisation de campagnes de dépistage, me dit-on, et de vaccination, d'organiser des conditions d'enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus. Cette phrase-là, elle veut dire quoi ? Eh bien, je voudrais qu'un prof m'appelle, quoi, un directeur nous appelle, pourquoi pas, ou un député d'ailleurs qui a voté cet amendement. Je veux comprendre. Vincent, bonjour.
Oui, Vincent. Bonjour Pascal. Bonjour.
Est-ce que vous comprenez ? Expliquez-moi à quoi ça sert pour le chef d'établissement de savoir qu'un petit garçon n'est pas vacciné ou qu'il est vacciné ?
Je peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire.
J'imagine, le cas concret que j'ai cité, je pense que c'est une possibilité. C'est-à-dire que vous avez un enfant qui n'est pas vacciné, le directeur d'établissement le sait, il y a du Covid dans l'établissement, on sort celui qui n'est pas vacciné. Et ceux qui sont vaccinés restent dans la classe. Peut-être que c'est ça. Je trouve que c'est un poil discriminant, mais peut-être que c'est ça.
Ah bah, vraisemblablement, ça ressemble à ça, mais ceci étant dit, moi je suis père d'une fille de 13 ans qui n'est pas vaccinée. Alors c'est pas de son choix hein, qu'elle ne soit pas vaccinée, c'est le choix de ses parents, à savoir moi et sa mère.
Pourquoi d'ailleurs vous souhaitez que votre fille ne soit pas vaccinée ?
parce que on considère, alors déjà j'ai pas trop envie de rentrer dans le débat de fond, c'est pas parce que chacun a son idée, hein. Je considère pas avoir la vérité absolue, pas plus que vous d'ailleurs, pas plus que personne, j'ai l'impression. Voilà, donc partant de là, c'est pas trop pour ça que j'appelle. J'appelle surtout d'abord, un, c'est notre choix, et jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'on est encore en situation, du moins je l'espère, de pouvoir choisir. Alors déjà en le disant, vous dites que vous êtes toujours un peu gêné aux entournures, parce que je ne fais pas partie de la majorité, très clairement. Ceci étant dit, notre fille de 13 ans n'y est pour rien. Donc la position qu'on a choisie, nous, pour l'instant, avec elle, parce qu'on l'a impliquée, on lui a posé des questions, il ne s'agit surtout pas de lui mettre de la pression. Donc on est parti dans cette idée-là, en se disant, voilà, la rentrée va arriver. Petite anecdote juste après. La rentrée va arriver, tu vas à l'école, on voit comment ça se passe. Et si ça se passe bien, quand je dis bien... Il n'y a pas des petits copains qui lui disent machin, des instituteurs, elle est en quatrième, des profs qui posent des questions. Dans ces cas-là, si on sent la pression monter, on te fera vacciner. À aujourd'hui, tout se passe super bien. Pas de questions, elle est partie en voyage scolaire à Paris, il n'y a pas eu de soucis, ça se passe vraiment super bien. Donc nous, on est complètement ravis.
Vous êtes vacciné vous-même, votre...
Non, du tout.
Un ensemble familial.
Ouais, c'est ça.
Parce
voilà,
que
c'est
une... parfois, il des parents qui sont vaccinés parce qu'ils considèrent qu'effectivement, ils sont un peu à risque, pourquoi pas. Et ils peuvent légitimer de ne pas vacciner leurs enfants parce que cette population, a priori, n'est pas à risque. Je dis bien a priori. Donc ça, c'est encore un autre choix. Tandis que vous, c'est un ensemble global. Mais donc aujourd'hui, vous n'allez pas au cinéma.
Je ne vais pas au cinéma, je ne vais pas dans les bars. Alors, je vais juste vous citer une anecdote, parce qu'elle est très parlante à ce sujet-là. Je tombe malade en fin de vacances, au mois d'août, et je vais consulter mon médecin traitant que j'ai en Haute-Savoie, parce que j'étais en vacances en Haute-Savoie, et à l'occasion de cette consultation, il me dit, au fait, t'es vacciné. Je dis, non, je suis pas vacciné. Il me dit, t'es pas vacciné. Je dis, non, c'est pas dans les débats. Il me dit, ta fille. Ben, je dis, ma fille non plus. Et il me répond, tu te rends compte des complications administratives que tu vas avoir à la rentrée, sans compter que ta fille, tu vas la voir tous les jours chez toi, parce que le Covid va exploser au mois de septembre, donc elle sera comme non vaccinée quand on est chez toi. Tu lui as répondu, alors moi, je n'avais pas besoin d'un conseil d'organisation d'ordre personnel. Je suis père de famille, j'ai une conjointe qui est mère de famille. Ce n'est pas ce que je lui demandais. Je lui demandais son avis midi, son avis.
Non, mais c'est vrai que vous avez raison.
Chacun fait comme il veut. Mais je n'ai pas que le soir à recevoir.
Je suis un peu d'accord avec cette position, pour tout vous dire. Personne n'a de leçon à donner à personne. Bon, en revanche, votre vie, elle est quand même handicapée aujourd'hui.
Pas du tout, parce que c'est pareil. Mais pas du tout, je vous assure.
Bah, c'est-à-dire que ne pas aller dans des activités, dans des restaurants par exemple, ça vous manque pas
Une fois de temps en temps. Je suis pas le seul. Vous savez, je suis courtier en assurance. J'ai 350 clients, dont des restaurateurs, qui me disent on a perdu. Alors les chiffres qu'on entend un peu. Alors après, je ne suis pas expert en la matière, mais on entend entre 20 et 30, voire 40% de clientèle en moins. Il y a plein de gens qui ne vont plus au restaurant parce qu'ils ont pris l'habitude à l'époque du Covid de ne plus y aller. Et puis vous avez des gens comme moi qui ne sont pas vaccinés. Je ne fais pas de forcing, je n'ai pas de faux passe, je ne fais pas tous ces trucs-là.
D'accord, mais vous ne prenez pas le train non plus?
Non, je ne prends pas le train, je circule en voiture.
Mais et votre fille ne fait pas de sport? Parce que c'est important. Alors, le sport pour les ados, et ça c'est un handicap XXL.
J'allais vous le dire, et c'est là où moi, la limite à cette chose-là, et là c'est la question que j'ai posée à ce fameux médecin, c'est là, vous avez complètement raison, vous l'évoquez d'ailleurs souvent. Moi, j'ai été éducateur sportif, je me suis occupé de jeunes enfants dans le cadre du rugby, parce que j'ai joué au rugby pendant très longtemps. Et je pense que le sport est absolument vital.
Bah oui.
Ma fille a 13 ans, mais aujourd'hui, figurez-vous.
Elle fait plus de sport.
Elle ne peut plus faire. On la refuse à l'aviron. Elle ne peut pas aller sur le canal, j'habite à Caen, sur le canal, pour faire de l'aviron à 13 ans.
Non, mais ça me met.
Je sais bien.
Les 12-18, je trouve que c'est invraisemblable. Alors, elle pourrait passer quand même un test à chaque fois pour faire de l'aviron. Elle peut faire un test antigénique. Elle peut faire.
C'est vrai, vous avez raison. Pas le choix qu'on a fait. C'est comme ça.
Bon,
c'est pénalisant pour ça.
Bon, Vincent, en tout cas, merci. Et c'est vrai ce que vous dites, que personne n'a de leçon à donner à personne et que c'est votre choix. Après, moi, je trouve que vous ne vous facilitez pas la vie, si vous
permettez. Ça va très bien, Pascal. Je vous assure.
Oui.
Ça va très bien. Je
suis d'accord avec vous, mais c'est au quotidien, vous quand vous ne pouvez pas prendre le train, quand vous ne pouvez pas aller prendre un café, quand vous ne pouvez pas forcément non plus aller dans une salle de spectacle. Bon, c'est des plaisirs de la vie, ou parfois même des obligations. polio, mais bon.
Pascal, je suis prêt à me faire vacciner contre la polio pour pas avoir la polio, mais je suis pas prêt à me faire vacciner contre le Covid pour aller au cinéma. Voilà, c'est ce que j'ai à dire.
Écoutez, merci en tout cas de votre franchise et bonne suite à vous et puis pour votre fille. Effectivement, c'est compliqué pour le sport. Alors, vous entendez la petite musique d'Astérix, je pense, Damien Béchiot, c'est ça ? Parce que sur RTL, tous les auditeurs qui interviennent, donc Vincent en était un, gagnent, remportent la BD événement de cette fin d'année, Astérix et le Griffon, en version luxe aux éditions Albert René, en partenariat avec RTL. Je ne sais pas si vous êtes un grand fan d'Astérix.
Si, si.
Vincent, c'est vrai, vous les avez tous.
Ah oui, j'ai le droit de le lire.
Ah bah oui.
Super. Mais
est-ce que vous savez la quantième aventure que c'est ?
Ah, allez, au hasard complet, je vais dire 35.
39, vous êtes fort.
Ah putain, j'étais pas loin.
Ah bah ouais, 39e aventure, accompagné du plus célèbre des druides. Il s'apprête à partir pour un long voyage en quête d'une créature étrange et terrifiante. Je parle d'Astérix, d'Obélix et de Idéfix. Voilà.
C'est très gentil, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Merci beaucoup.
13h20, une pause et nous continuons sur ce sujet qui nous passionne, en tout cas qui nous fait réagir.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous sommes avec Marilyn et nous évoquons, alors c'est à la fois le pass sanitaire qui a été prolongé jusqu'au 31 juillet et puis c'est la levée du secret médical des enfants. Et je cherche à comprendre. Marilyn va peut-être nous aider. Bonjour Marilyn.
Bonjour Pascal.
Bonjour, vous êtes assistante personnelle et vous êtes maman. Vous avez un enfant.
J'ai trois enfants.
Voilà, vous avez peut-être des enfants qui sont en cours.
Exactement, mes trois enfants sont en cours.
Ils sont en cours, je veux dire, ils sont à l'école.
Ils sont à l'école.
Voilà. Ils ont quel âge ?
Alors 20 ans, 17 et 12.
D'accord, 12 ans, c'est donc 6e, 5e ?
Cinquième.
Donc il part masqué le matin, par exemple.
Exactement.
Mais ça ne vous cisaille pas le cœur qu'il parte masqué ?
Ah si, par contre, ça me cisaille le cœur parce que nous, dans les bureaux, en tant qu'adultes, on a la chance de pouvoir l'enlever de temps en temps.
Et il est vacciné.
Moi, elle a eu tout juste 12 ans la semaine dernière. Elle a déjà reçu sa première dose la semaine dernière, le lendemain de ses 12 ans.
Bon, il y a 88%, paraît-il, des enfants, des personnes au-dessus de 12 ans qui sont vaccinées en France. 88% première dose, 86% les deux doses. C'est-à-dire qu'à un moment, quand même, si les 12-18, je le répète, qui ne sont pas la population à risque, si on ne lève pas, me semble-t-il, les barrières, notamment pour cette population-là, et qu'elles continuent à porter le masque, ça ne s'arrête jamais.
Oui, c'est dur pour eux. Franchement, c'est dur. C'est difficile. Les petits bouts, ils portent, enfin, même les grands de 17 ans, j'ai des petits bouts.
C'est incroyable quand même. Il y a un moment, ça doit s'arrêter. Je veux dire, pour les raisons que je viens de dire. Mais ce qui m'intéresse, c'est quel est votre avis sur le secret médical levé cette nuit ?
Eh bien, écoutez, moi, je suis pour. Je suis pour parce que je trouve que c'est déjà assez compliqué comme ça. Je suis maman relais dans la classe de ma petite dernière de 12 ans. Et on a eu justement une réunion la semaine dernière sur ce sujet. Et je suis pour parce que déjà, c'est une vision d'adulte de compliquer les choses. Quand vous posez la question aux enfants, ils s'en fichent complètement de savoir qui a le vaccin ou pas. Ce qu'ils veulent, c'est être dans l'instant présent.
Je suis d'accord avec vous, mais vous êtes pour. Mais alors, concrètement, ça sert à quoi pour le chef d'établissement ?
Ben en fait, déjà, c'est le chef d'établissement, c'est pas le professeur, donc il va pas... C'est
J'entends bien, mais ça sert à quoi ? Il l'utilise comment
Je pense qu'en fait, effectivement, c'est pas encore très concret, mais il va l'utiliser en disant, ben, on va éviter de fermer des classes. C'est vraiment pénalisant pour les enfants quand
pourquoi
une classe
on
est fermée.
Pourquoi on va éviter de... Oui, mais alors, ça veut dire quoi, éviter de fermer des classes ?
Eh ben, ça veut dire que la classe, je pense, hein, dans ma logique, je pense que tous les enfants qui seront vaccinés pourront continuer à aller en cours et celui qui n'est pas vacciné ne pourra pas.
Donc là, c'est une autre logique, finalement, parce qu'ils sont vaccinés, mais ils doivent quand même avoir le masque. Mais il y a un cas de Covid dans la classe.
Je sais.
C'est celui qui n'est pas vacciné qui sort. Le cas de Covid, on reste quand même dans la classe et ils sont...
Je sais.
Donc là, c'est deux logiques qui s'affrontent que je ne trouve pas cohérentes.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas très clair, mais moi, je trouve que si ça peut éviter de fermer des classes, parce que c'est une vraie galère pour les enfants de récupérer leurs cours, vraiment. Et d'ailleurs, c'est eux qui nous le disent au quotidien. Mon cadet de 17 et ma petite dernière de 12 ans me disent « Ah non, je veux pas louper l'école. Ça a été déjà assez compliqué pendant le confinement et aussi quand les classes ont fermé parce qu'ils ont eu le cas, quand il y a eu des cas de Covid, de récupérer les cours. Ils ne veulent plus revivre ça. Donc eux, moi, c'est eux qui m'ont demandé d'être vaccinés. On est tous vaccinés. Et c'est eux qui m'ont dit « Moi, je veux être vaccinée. Je veux pas louper les cours. » Je pense que ça a été traumatisant pour nos gamins. Au début, c'est ludique parce qu'on manque l'école, mais à la fin, ils en ont marre. Donc moi, je suis pour.
Je suis d'accord avec vous, mais je suis contre fermer les écoles et les classes, c'est bien entendu, mais je ne vois pas le rapport avec la loi qui a été votée cette nuit. C'est pour ça que je ne saisis pas comment ça va être utilisé.
Bah on va voir comment ils vont mettre en pratique cette loi, effectivement. Moi, dans ma logique...
Je ne vois qu'une solution, c'est de sortir l'enfant qui n'est pas vacciné. En fait, je ne vois que ça et je m'en inquiète.
Mais vous savez, nous, on est en train d'organiser un voyage pour les enfants en fin d'année scolaire en Allemagne. Et c'est vrai que c'est un sujet très petit, très tabou, parce que beaucoup de parents ne veulent pas dire si leurs enfants sont vaccinés ou pas. Et aujourd'hui, on est confronté à un mur, parce qu'on ne sait pas comment faire pour savoir si on peut organiser ou pas ce voyage en Allemagne pour les enfants qui ont très envie de partir.
Vous nous écoutez régulièrement, Marilyne ?
Oui, je vous écoute tous les jours.
Tous les jours. Alors, vous avez vu que cette année, nous avons un nouvel intervenant.
Marilyne. Un nouvel intervenant, oui, alors vous mettez une colle.
Ah bah, attendez, vous allez le vexer. Quel est celui qui intervient pour la première fois cette année, qui intervenait pas l'année dernière ?
Il lit les messages sur les réseaux sociaux, Marilyne.
Ah, mais oui, mais c'est Olivier.
Mais bien sûr, c'est Olivier. Et vous savez comment on l'appelle, Olivier ?
Non.
Bah, vous entendez pas Laurent Tessier, comment il l'a surnommé ou nommé ?
Ah non, j'ai pas fait attention.
Monsieur Boubou qui l'appelle parce qu'il regarde Facebook.
Magnifique surnom.
Bah, je trouve que c'est un peu... Moi, ça me plaît pas trop, mais bon...
Mais ça me représente assez bien, je trouve.
J'ai surtout entendu que le pauvre, il s'est fait planter un rendez-vous.
Ah oui, exactement. si vous pouvez faire quelque chose pour lui, je pense que c'est si vous connaissez quelqu'un, ou quelqu'une en l'occurrence, peut-être...
Je peux peut-être m'arranger, surtout qu'il a l'air d'être fort sympathique, Olivier.
Mais il est fort sympathique, ça je suis d'accord avec vous. On ne peut pas lui enlever ça. Donc,
il a ça au moins.
Non, mais c'est quand même incroyable cette émission.
Mais Marilyne, non, mais en fait, nous l'aimons parce que en fait, il a beaucoup d'esprit et d'humour. Et comme vous le savez, notre émission fait aussi la part belle à l'esprit, l'humour et la dérision.
C'est
donc,
vrai.
Il y a un peu de second degré lorsqu'on échange avec Olivier.
Et c'est très agréable.
Eh bien, vous êtes gentil. Alors, il va nous donner quelques messages, monsieur Olivier.
Bonjour. Allez, on y va. Bonjour, Pascal.
Qui prépare son week-end, parce que c'est toujours un grand moment. Alors, est-ce qu'il y a un suspense ? Est-ce que le rendez-vous de la semaine dernière a été reporté ?
Je pense que je vais le réitérer et on verra si ça fonctionne cette fois-ci. Oui, oui.
C'est pas vrai.
Ah, mais je ne lâche rien, Pascal.
Ah, vous allez refaire l'invitation.
Ah, bah, bien sûr.
Ah, ouais, donc
normal.
Vous y retournez.
Il ne faut jamais rien lâcher.
Fou, quand il y a une veste.
Avec l'aide de Marilyne, je vais y arriver, c'est sûr.
Bien sûr, bien sûr. Alors, que nous dit-on, cher ami ?
Allez, sur nos pages Facebook et Twitter, pour Didier, on franchit le secret médical en voulant connaître le statut vaccinal des collégiens et lycéens. Laurent écrit dans le même sens, c'est l'amendement de la honte, il n'y a plus de limite. Et on conclut avec William qui a un tout autre discours, c'est parfaitement normal lorsqu'il y a une pandémie, l'intérêt général doit primer sur les libertés individuelles de chacun, Pascal.
Est-ce que vous aimez votre boîte, cher Olivier ?
Ah bah évidemment, Pascal.
J'aime ma boîte, c'est la journée. Alors c'est vrai que nous on a de la chance parce qu'on travaille dans une entreprise agréable, sérieuse, prestigieuse, historique. Donc il y a beaucoup de qualité qui est RTL, mais Sophie de Menton sera avec nous tout à l'heure, elle est présidente du mouvement patronal éthique, et c'est elle qui a lancé la très belle opération J'aime ma boîte, la 19e édition de l'opération, elle sera avec nous à 13h30. Pour le reste, vous pouvez nous appeler sur tous les sujets possibles et inimaginables. Par exemple, c'est vrai que c'est les vacances demain, qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire à partir de demain avec les enfants ? Est-ce que vous partez ? Est-ce que vous restez ? Est-ce que vous allez à la campagne ? Je ne sais pas. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier.
C'est la question du jour. Faut-il maintenir le pass sanitaire ? L'Assemblée nationale a donné son premier feu vert pour permettre au gouvernement de pouvoir recourir au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet. Paco Rupin, député La République En Marche de Paris, était l'invité de RTL Midi. Il est contre cette extension.
Je crois que le pass sanitaire est dangereux, dans le sens où il exclut tous ceux qui ne font pas le choix de la vaccination. Le pass sanitaire était censé être un outil d'urgence. Le vote d'hier, en tout cas, va permettre une pérennisation de cet outil comme un outil de prévention. Et donc, alors même que l'épidémie est sous contrôle, mettre de côté près de 7 millions de nos concitoyens.
Qu'en pensez-vous ? Va-t-on beaucoup trop loin ? 3210, 3210 sur votre téléphone.
Michel est avec nous et je rappelle notre objet de discussion, un amendement gouvernemental au projet de loi de vigilance sanitaire voté cette nuit autorise les directeurs d'établissements scolaires à connaître le statut vaccinal des élèves contre le Covid-19. C'est ce qu'on appelle la levée du secret médical des enfants. Donc Michel est là. Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous avez une fille, je crois.
Oui, j'ai une fille de 12 ans, oui, qui est au collège.
Et elle n'est pas vaccinée.
Et elle n'est pas vaccinée, non. Et donc, en fin de compte, là, vous parliez juste avant, qu'est-ce que vous allez faire de vos vacances ? Moi, je peux vous dire ce qu'on ne va pas faire. Donc, on ne va pas faire de cinéma, on ne va pas faire de restaurant, on ne va pas aller à la bibliothèque si elle a un exposé à faire. Elle ne peut plus faire de sport, puisqu'il faut un certificat. Et on n'ira pas non plus dans des musées. Donc, voilà ce qu'on ne pourra pas. Et puis, si on veut le faire... Eh ben on va avoir, si on y va à plusieurs, 44 euros par personne de test PCR.
Non, les enfants, c'est gratuit.
Oui, mais elle ne va pas y aller toute seule. Donc si on va au cinéma,
ah oui, parce que vous n'êtes pas vacciné non plus ?
Moi, je ne suis pas vacciné.
Ah oui, donc c'est toute la famille. C'est un même cas que Vincent tout à l'heure.
Tout à fait.
Parce que parfois, je ne vais pas répéter ce que je disais tout à l'heure, mais parfois, c'est un choix de ne pas vacciner les enfants qui ne sont pas a priori une population à risque. Considérer qu'à 50, 55 ans, je vois que vous avez 55 ans, on peut considérer que là, vous êtes une population davantage à risque et que le bénéfice risque, en ce cas-là, il est au bénéfice du vaccin.
Bénéfice risque, aujourd'hui, il paraît que si on met le masque, on protège les autres et constamment partout, on a le masque. Moi, je travaille dans plusieurs établissements, on a le masque partout. Donc je ne vois pas à quel moment, si on respecte les gestes barrières, on va attraper quoi que ce soit. Ni rhume, ni quoi que ce soit, puisqu'on respecte tout le temps. Les enfants, eux, je ne sais pas combien de personnes sont à risque et combien il y a de morts d'enfants en France depuis le début de l'épidémie. Mais en fin de compte, on est en train de polluer, et depuis qu'on a mis le pass sanitaire au mois de juillet, de différencier certaines catégories de personnes. Parce que même moi, si je ne veux pas que ma fille se fasse vacciner, ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas, par exemple. Donc, en fin de compte, on lui impose quelque chose que ses parents ont choisi. Et je ne trouve pas ça du tout normal. Parce que les conséquences à terme, si on parle rien que du sport, il suffit d'aller voir tous les clubs de sport, il y a une baisse de 40%.
Non, mais
bien que les enfants qui ont arrêté le sport déjà il y a un an, si on leur rajoute un an, ça fera deux ans sans sport.
Mais pourquoi vous ne faites pas vacciner, au fond ? Moi, je suis toujours intéressé par ça. Vous avez peur ?
Peur de quoi ?
Du vaccin ?
Je n'ai pas peur du vaccin. Je ne vois pas le bénéfice.
Bah alors, si vous n'avez pas peur du vaccin, pourquoi vous ne faites pas vacciner ?
Je ne vois pas le bénéfice.
Le bénéfice, Michel, vous savez très bien le bénéfice, vous le connaissez comme moi, vous risquez de développer un jour une forme grave, et le vaccin vous protège de cette forme grave, point.
Partout où on va, on a le masque.
Mais Michel,
partout où j'ai mon gel sanitaire sur moi.
Michel, on ne va pas faire cette discussion. Vous savez bien que même si vous vous protégez, le virus peut passer. Enfin, il y a des gens qui étaient anti-vaccins et qui en sont morts. Et sur leur lit de mort, ils ont expliqué qu'ils regrettaient d'avoir leur position. Les enfants, c'est autre chose. Moi, le 12-18, vraiment, je mets ça depuis le départ à part. Après, c'est autre chose. Les enfants, je considère qu'effectivement, sur des 12-18, on n'est pas obligé de vacciner les enfants. Vous avez 55 ans. Pourquoi vous ne vous... Parce qu'en fait, quand vous me dites, je ne vois pas le bénéfice, pardonnez-moi de le dire comme ça, je ne vous crois pas. Je pense que vous avez peur. Mais vous avez le droit d'avoir peur, surtout.
Non, mais on va dire que, moi, c'est tout simple. Hein. Pour moi, il n'y a pas d'historique par rapport à ce vaccin.
C'est ça. Donc vous avez peur, vous pensez, vous n'êtes pas confiant.
Ah ben, je ne suis pas confiant. On a dit, au départ, le Moderna, c'est bon, tout le monde. Après, on a dit, à partir de tel âge.
Bon, Michel, on marque une pause, mais moi, ça m'intéresse beaucoup parce que j'essaie toujours d'être rationnel. Il y a 3 milliards de personnes qui ont été vaccinées. Vous doutez bien que s'il y avait un souci grave, hormis les effets indésirables, et là, on rentre dans le bénéfice-risque, un effet indésirable. C'est pour ça que moi, je ne veux pas faire prendre forcément un risque à un enfant de 12-18. Parce que comme il n'a aucune chance de développer la maladie de manière très grave... Il a quand même une possibilité d'effet indésirable. Et là, le bénéfice-risque, je ne suis pas sûr qu'il soit en faveur de l'enfant, si on le fait vacciner. Mais autrement, hormis ces cas particuliers, le vaccin est quand même le bénéfice-risque, à mon sens, penche en faveur du bénéfice. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. Participez au débat en appelant le 3210.
50 centimes la minute.
13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau.
Et demain, on fera une spéciale Brassens.
Ce sera demain, Pascal.
Centenaire de la naissance de Jean Brassens.
100 ans de Brassens. C'est vrai que on l'entend moins, je trouve, que d'autres chanteurs qui sont décédés.
Eh bien, comptez sur nous demain pour entendre du Brassens.
Je trouve qu'on l'entend, il est moins présent et on peut le regretter parce que ses textes sont magnifiques.
En attendant demain, vous pouvez nous appeler dès maintenant au 3210 pour répondre à cette question. Aimez-vous votre entreprise? C'est aujourd'hui la fête des entreprises et la 19e édition de l'opération J'aime ma boîte.
Merci patron.
Sophie de Menton, présidente du mouvement patronal éthique, sera votre invitée dans quelques instants. Et cette année, le slogan est « J'aime ma boîte et j'y crois ». Selon un sondage Opinionway, 65% des sondés disent apprécier leur entreprise. Mais les relations avec votre patron, vos collègues, sont-elles dégradées depuis la crise sanitaire? Un tiers affirme que la crise leur donne moins envie de travailler. Est-ce votre cas? Souhaitez-vous faire plus de télétravail? Ben venez témoigner dans l'émission 3210-3210.
Eh bien, ça va être intéressant, effectivement. Alors, on fait beaucoup sur le statut vaccinal, mais il est double entre le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet et puis la levée du secret médical. Généralement, on fait une demi-heure par sujet, mais là, on va être à trois quarts d'heure. Mais comme c'est double, on consacre un peu plus de temps. Patrick, bonjour.
Allô.
Allô, Patrick.
Oui, vous m'entendez?
Je vous entends 5 sur 5.
Bon.
Tout va bien?
Ah, impeccable.
Bon, vous êtes où, là?
Je me suis levé ce matin.
Ah ben oui.
Quand j'ai entendu ça chez vous... à la radio à 5h du matin, j'ai dit, mais c'est n'importe quoi.
Ah, vous avez l'accent de Lyon en plus.
Écoutez, j'en sais rien.
Mais pourquoi vous vous levez si tôt à 5h du matin?
Parce qu'on travaille à 5h du matin, monsieur Courbet.
Moi, c'est pro. Ça, je pense que demain, lorsqu'on va faire l'échange avec Julien, je vais lui dire, il est tellement présent à RTL. En fait, tous les animateurs ne s'appellent pas Julien Courbet.
Courbet. Non, mais c'est affolant de voir ça. Affolant de voir ça.
Mais je suis d'accord avec vous. Bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Patrick?
On vote quelque chose à 5h. Enfin, je sais même pas à quelle heure qu'ils ont voté. Mais quand j'entends ça à 5h du matin, mais je me dis, mais ils sont complètement fous.
Pourquoi?
Mais attendez, mais où c'est qu'on va là?
Oui, mais on pourquoi dit...
mais attendez, mais là c'est le début. Là on commence à ouvrir la boîte de Pandore. En gros, hein? Parce qu'on dit aux enfants, ben maintenant on va savoir le secret médical des enfants.
Mais ben, c'est vrai que vous avez des enfants à l'école?
Oui, non, mais elle est grande. Inquiétez-vous pas, là, moi pour moi je suis tranquille.
Objectivement. Quand vous inscrivez votre enfant à l'école, il faut déjà apporter le carnet vaccinal.
On est d'accord. Ça, il y a les vaccins obligatoires.
Donc ça, ce qui est important, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que ça, c'est les vaccins obligatoires. Or, là, on n'est pas dans un vaccin obligatoire.
Il y a des parents, c'est dérisoire en France, il y a quelques parents qui ne le font pas. Après, c'est leur responsabilité, ils se débrouillent. Moi, quand j'ai eu mon enfant, il y a eu des vaccins obligatoires, on le a fait. On a amené le carnet vaccinal à l'école, il me semble, quand il fallait lui amener, et terminé. Bon. Après, par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est là où ils votent une loi, et puis qu'ils disent, eh ben maintenant, le directeur d'école, mais il est assermenté en cours, le directeur d'école aura le droit de savoir le secret médical. Non, mais attendez.
Je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce qu'il va en faire, à votre avis, ce directeur d'école? Parce que j'arrive toujours pas à savoir comment il va utiliser cette information.
Mais attendez, moi je sais pas. Bon, alors ils disent, oui, voyage scolaire. J'ai entendu tout à l'heure des auditeurs, on dit voyage scolaire.
Donc celui qui n'est pas vacciné fait pas de voyage scolaire, par exemple?
Ah ben n'importe comment, oui, il pourra pas le faire, le voyage scolaire. Puisque n'importe comment, aujourd'hui, vous savez très bien que des enfants, on va dire 12 ans, hein, 80% ont des portables tactiles.
Et donc,
je veux pas dire 100%. Je veux pas dire 100%.
Mais quel est le rapport?
Vous allez comprendre le rapport. L'application du code QR code, il est où? Généralement sur le portable. On est bien d'accord. Donc le directeur d'école a pas besoin de savoir si le gamin il est vacciné ou pas. Le gamin, n'importe comment, il sait très bien s'il va partir en vacances, en voyage scolaire. S'il va, comme j'ai entendu tout à l'heure, une dame qui a dit, Oui, mais si on ne peut pas savoir si on pourra aller en Allemagne. Mmh. Eh ben, ils ont qu'à convoquer tous les parents de la classe, leur dire, voilà, on a une réunion tel jour, vous nous dites la vérité, maintenant, il n'y a pas besoin de savoir que le directeur, il ait un feu vert pour savoir si tous les gamins, ils sont vaccinés.
Bon, je comprends, Patrick.
Parce que là, ce que je voulais en dire, parce que moi, quand j'ai appelé, c'est là, on commence avec les enfants, avec le secret médical. Mmh. On commence là.
Mais non, mais j'ai bien compris.
Mais dans quelques mois, qu'est-ce qui va se passer si jamais ça se calme pas la pandémie? Eh ben, on va dire à des salariés, eh ben voilà, on va lever le secret médical des salariés. Et des patrons, ils vont s'engouffrer dans la brèche.
Parce qu'on a déjà
des patrons qui ont obligé leurs salariés à se faire vacciner pour pouvoir continuer de travailler.
Bon, vous faites quoi, vous, dans la vie, Patrick?
Je suis chauffeur routier.
Bon, vous êtes vacciné?
C'est pas le problème.
Donc vous ne l'êtes pas?
Ah ben ça, je
mais vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas vacciné. C'est anonyme, vous avez notre témoignage, je vais pas aller vous rechercher, puis je donne jamais. J'essaye en tout cas de pas donner de leçons.
Ça, c'est chacun qui voit midi à sa porte.
Oui, j'entends bien, mais donc vous n'êtes pas vacciné.
Aujourd'hui, il y a encore 10% de gens qui sont pas vaccinés, j'ai entendu tout à l'heure à votre radio.
Eh ben vous en faites partie, manifestement.
Eh ben peut-être que j'en fais pas partie.
Peut-être que vous n'en faites pas partie.
Peut-être que j'en fais pas partie, mais c'est pas pour ça que j'ai appelé. C'est parce qu'on vote une loi dans la nuit qui commence à...
J'ai bien compris, Patrick.
...les droits des enfants.
Parce j'ai que là, bien compris.
En gros, on leur dit, bah, maintenant, il n'y aura plus de secret médical, et puis terminé.
Patrick, Julien Courbet parce vous demande de vous arrêter.
Dire, ça part pour un an, une année scolaire. Ça, c'est le début des conneries. Hein. Parce que on se téléphone dans 6 mois, et vous allez voir, on va prolonger ça après. Hein.
Je peux penser que vous avez raison. Merci en tout cas, Patrick.
Bon après-midi.
Merci.
Et puis, dans 6 mois, on va se faire prendre une autre pilule dans le nez. mais il faut arrêter les conneries.
Bon, restez quelques secondes avec nous, parce que comme vous êtes sympathique, il faut qu'on fasse une pause, mais restez quelques secondes avec nous. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Au revoir à Patrick. Patrick, qui est donc chauffeur routier, qui s'est levé à 5h ce matin et qui a découvert à 5h du matin que le secret médical des enfants était levé. Et puis, on a aimé notre conversation parce que vous êtes sympathique, Patrick, et vous dites les choses telles que vous les pensez. Donc, c'est agréable.
Bah, écoutez, dans votre comment, il y a beaucoup de gens qui pensent à mon avis comme moi. Et ça me fait peur que le gouvernement agisse comme ça quand même.
Et ben bonne journée à vous en tout cas, Patrick. Bonne journée à vous.
En catimini, parce que là c'est quand même grave d'agir en catimini pour faire passer des lois pareilles.
Merci en tout cas et bonne journée vraiment du côté de Lyon.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Alors j'aime ma boîte. J'aime d'abord quand vous venez, Sophie de Menton.
Et c'est réciproque.
J'aime parce que c'est une manière de réconcilier. Parce que c'est vrai que parfois, il y a des tensions entre le salarié et le patron. Donc, vous êtes patron depuis longtemps. C'est vrai que parfois, il y a des petits conflits, forcément. Parce que le patron décide et le salarié est obligé souvent d'exécuter.
Ouais, enfin, je vais vous dire, ça change vite. Hein. Le rapport de force a changé. Vous savez quoi, devant un salarié, moi, je m'écrase.
Ah
d'abord,
bon
vous l'engueulez, parce que ça arrive. Mm. Vous l'engueulez, il est en arrêt maladie. Hein. Ah non, je suis désolée.
C'est vrai ?
Oui. Et vous ne pouvez plus... Et c'est bien, parce que je suppose que ça a été déséquilibré très longtemps. C'est fini. Un salarié, il ne veut plus venir. Il suffit qu'il ne se présente pas à son poste de travail. Il est automatiquement au chômage au bout de 3 lettres commandées. Il touche son chômage et c'est terminé.
Il faut trouver du job quand même. Et puis le chômage, ce n'est pas 100% du salaire. Ce n'est pas agréable d'être au chômage.
Ce n'est pas 100% du salaire, mais d'abord, il faut savoir, et ça c'est une très bonne nouvelle que je vous donne, c'est qu'on est pratiquement en plein emploi. Hein. On trouve plus personne pour bosser. C'est invraisemblable. Non, vraiment.
Dans certains secteurs, notamment la restauration, l'hôtellerie.
Et puis les secteurs difficiles, ce que je peux comprendre, les secteurs où il y a des métiers durs, bâtiments, etc., les aides à la personne, beaucoup de difficultés.
Bon, en tout cas, c'est une initiative, c'est la 19e fois, hein, je crois.
Oui, 20 ans l'année prochaine, je serai là.
Parce que l'entreprise rime aussi avec amitié, épanouissement personnel, accomplissement professionnel. L'événement J'aime ma boîte a pour vocation de fédérer salariés et entrepreneurs. C'est un joli mot d'ailleurs, entrepreneur. Autour autour de ce qu'ils partagent ensemble, pas moins de 253 jours de l'année en vivant une journée pas comme les autres. Et c'est vrai qu'on passe, une banalité de le dire, mais on passe plus de temps parfois avec Laurent Tessier que je vois ma fiancée dans la semaine.
Absolument. Mais du coup, ça marche très bien avec votre fiancée. Bah, moi, elle vous voit.
Moi, bah, c'est agréable. Mais c'est pas faux. Je pense que c'est peut-être le secret de cette liaison qui dure.
Mais nous, on aime bien avoir les salariés plus souvent. Vous voyez, le télétravail nous a séparés.
Oui.
Et c'est vrai qu'il se passe des choses en ce moment incroyables. C'est pas une fête comme les autres.
Mais le télétravail, ça va être aussi une tendance.
Oui.
Une tendance très forte, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui peuvent bosser à 400 km du siège de l'entreprise, qui ont même quitté parfois Paris ou une grande ville, et puis qui se sont mis ailleurs pour pouvoir travailler, parce qu'ils peuvent. C'est des métiers, je pense, notamment experts.
20% des métiers peuvent se faire à distance.
C'est fou, ça.
Mais il y aura un clivage, parce qu'il y aura des jaloux, 80% des gens qui ne peuvent jamais être en télétravail. Ouais. Et ceux qui sont en télétravail, c'est un problème terrible pour ceux qui managent, qui dirigent, qui animent. J'étais épuisée, vous les avez, avec des conf-calls. Vous dites, mais je ne vous vois pas la vidéo. Ah non, parce que ce n'est pas rangé, je ne la mets pas. D'accord. Vous ne voyez pas votre salarié. Ou l'autre qui me dit, maintenant, je ne suis pas encore habillée, c'est 9h du matin. Bien.
Ah justement, vous auriez dû lui dire.
Habillez-vous.
Ouais, non, au contraire, restez tel quand vous êtes, c'est convivial.
Vous mettez la vidéo.
Non, mais c'est intéressant.
Je plaisante, mais ce sont des anecdotes comme ça.
Vous êtes dans quel secteur, Sophie de Menton?
Patronal, conseil, dans le tertiaire, moi.
Donc, on peut effectivement travailler à distance.
Oui.
Mais bon, il y a des jobs où on ne peut pas travailler à distance. Alors, par exemple, monsieur... Jean-Alphonse Richard.
Il ne travaille pas à distance.
Non, il ne travaille pas à distance. Non, mais c'est l'heure du crime. Un crime ne peut pas se faire à distance, a priori.
Un crime
en télétravail.
Le crime au téléphone, ça existe. Il y a un fameux Colombo là-dessus qui est formidable.
C'est pas vrai.
Il déclenche l'attaque des chiens.
Mais je connais ça. Voilà. Il avait changé le nom des chiens, le nom de code des chiens.
Exactement.
Ah, je me souviens, ça.
C'est un crime formidable. Déclic.
Bien sûr.
Effectivement, ça peut, avec les nouvelles technologies, on peut tout imaginer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais rester beaucoup plus terre à terre. Je vous raconte l'histoire d'Antonio Ferrara, Nino Ferrara, l'itinéraire d'un enfant gâté et puni du crime. Il est rentré dans la légende, vous vous en souvenez, avec la spectaculaire évasion de Fresnes à l'hiver 2003, la prison qui avait explosé, les portes plastiquées, etc. Vous vous souvenez de ça? Il y a des images incroyables.
Bien sûr.
J'adore les évasions.
Voilà. Et donc lui, c'est le roi, il a été surnommé le roi de la cavale, il s'est évadé deux fois, une première fois à Fleury, la deuxième fois à Fresnes, dans des conditions hallucinantes.
Avec un hélico?
Non, pas du tout.
Non, ça, c'était Nadine Beaujour.
Des complices sont venus et ont fait exploser les portes de la prison. C'est du jamais vu en France. Ça se passait en Colombie ou au Mexique, mais pas en France. Il va être lourdement condamné. Il est toujours en prison. Il est libérable en 2025, mais il a une story tout à fait incroyable, Ferrara. Il est même très respecté des policiers, c'est dire.
C'est à 14h30 et vous connaissez le principe de notre émission, puisque chaque année vous venez pour J'aime ma boîte, vous allez dialoguer avec des salariés sans doute, et puis vous allez nous donner votre sentiment sur ce rapport. Ce que vous disiez intéressant, le rapport de force a changé, dites-vous, entre les salariés et les patrons. C'est les salariés qui décident. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr.
De près, il est 14h. Agnès Bonfillon.
En Grande-Bretagne, l'homme suspecté d'avoir poignardé un député britannique, David Ames, vendredi, est inculpé pour meurtre et préparation d'actes terroristes. Ali Harbi Ali, c'est son nom, est un Britannique d'origine somalienne, âgé de 25 ans. Il doit être présenté à un juge dans les heures qui viennent. En Italie, explosion du nombre d'arrêts maladie depuis vendredi dernier chez nos voisins depuis le 15 octobre. Le pass sanitaire est devenu obligatoire pour aller travailler. Les employés refusant de s'y soumettre encourt une suspension de salaire, mais avec un certificat médical, eh bien la personne peut rester chez elle en étant payée. En France, l'obligation vaccinale, vous le savez, ne concerne que certaines professions, dont le personnel soignant. Et justement, dans les Alpes-Maritimes, une trentaine d'agents hospitaliers contestent devant le tribunal administratif de Nice la suspension de leur contrat et le versement de leur salaire. Leur avocat plaide la liberté fondamentale à travailler. Interdiction progressive des animaux sauvages dans les cirques et delphinariums. Vente de chiots et de chatons en animalerie prohibée. Les parlementaires viennent de parvenir à un accord sur le texte de loi contre la maltraitance animale. Ça n'était pas gagné, hein. Le Sénat avait largement édulcoré le texte fin septembre. Cette proposition de loi doit aussi contribuer à éviter les achats impulsifs d'animaux de compagnie. Quelques 120 000 foyers toujours privés d'électricité après le passage de la tempête Aurore. La circulation des trains, elle, reprend progressivement dans le nord du pays. Les coups de vent ont provoqué plusieurs centaines d'incidents avec des arbres, des branches ou autres objets sur les voies ou les caténaires. La tempête a perdu en intensité. Elle est en train de s'évacuer par l'est. La météo de demain. Demain, à part au sud de l'Aquitaine, beaucoup d'éclaircies et un temps franchement ensoleillé sur les bords de la Méditerranée. Le résultat du quintet qui vient de se dérouler à Auteuil. Et il fallait jouer le 14, le 8, le 10, le 12 et le 11. Le 14, le 8, le 10, le 12 et le 11. Il est 14h02 sur RTL. La suite des auditeurs ont la parole. C'est tout de suite avec vous, Pascal Praud.
J'aime ma boîte.
Bah oui, toujours.
On va en parler. J'aime ma boîte jusqu'à 14h30. Merci Agnès Bonfillon.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Donc la 19e année de J'aime ma boîte, et puis c'est le moment effectivement d'interroger les uns et les autres sur le rapport qu'ils ont à leur boîte. Donc vous allez pouvoir nous accompagner, Sophie de Menton. Nous sommes avec Philippe, qui est formateur, qui est enseignant en droit du travail. Bonjour Philippe.
Bonjour Pascal.
C'est intéressant d'avoir quelqu'un qui a un certain âge, une certaine expérience, parce que est-ce que vous diriez que le rapport à l'entreprise a changé?
Alors, oui, c'est très vaste, quoi, parce que moi, j'ai beaucoup d'entreprises en France, que ce soit des petites entreprises comme des grosses entreprises. Alors, ce qu'il faut voir là-dedans, Sophie Menton a raison pour un certain point quand elle dit, il y a l'ouvrier maintenant qui n'accepte plus la frustration. Donc, on se retrouve avec certains chefs d'entreprise, dès qu'ils font une remarque, et même si elle est justifiée...
Philippe, je vous coupe parce que la liaison est pas très bonne. Je pensais qu'elle s'arrangerait, donc on va essayer de la sécuriser. On est avec Michel. Bonjour Michel, chef d'entreprise à Toulouse. Je repose la même question, Michel. Vous avez de l'expérience aussi, vous avez 63 ans. Est-ce que vous avez le sentiment, depuis tant d'années que vous embauchez des salariés, qu'ils ont un rapport différent à leur boîte qu'ils n'avaient, je dirais, dans les années 80?
Bonjour Pascal, bonjour Sophie, bonjour. Avec qui je partage un certain nombre d'arguments. Alors, moi, ce rapport, déjà, montre qu'il y a apparemment un désamour un petit peu plus important par rapport aux années précédentes vis-à-vis de l'entreprise. Je ne suis pas tout à fait en accord. D'abord, c'est un mélange des entreprises publiques et privées. Moi, je crois que l'entreprise représente toujours un socle et une protection importante pour les salariés, puisque c'est quand même le travail, le lieu où ils travaillent et qui génère le salaire, et avec des rapports humains qui, je pense, ne se sont pas manifestement dégradés. Par contre, je pense que ce rapport ne tient pas compte d'une crainte des salariés quant à l'environnement, qui est assez anxiogène, on en parle assez à travers les différentes informations. Et je crois que, comme tout sondage, il génère une attitude et une expression d'un mal-être global, plus qu'un mal-être vis-à-vis des entreprises. Alors peut-être que les entreprises publiques sont dans une vision différente par rapport aux salariés, notamment à cause du télétravail, etc., que les entreprises privées. En ce qui concerne, en tout cas, mon entreprise, le domaine et les différents amis que j'ai qui sont également entrepreneurs, qui effectivent, Pascal, un très joli mot, ils n'ont pas cette vision d'attitude, je dirais, négative vis-à-vis de ça.
Alors, je retiens ce que vous dites, Michel, et j'interroge Sophie. C'est vrai que quand on dit « j'aime ma boîte », on ne pense pas au public. Honnêtement, on pense on pense boîte privée.
Non mais Pascal, regardez le sondage que vous avez sous les yeux. Même topo, le salarié du public aime exactement leur entreprise. Il dit « j'aime ma boîte » exactement de la même façon. Ça a été amusant, il y a des hôpitaux qui ont fêté « j'aime ma boîte » parce qu'ils se sentaient une entreprise.
Mais
c'est
est-ce
avant
que,
tout
par exemple,
communauté.
Un prof se sent dans la boîte
moment,
de l'éducation nationale? Vous voyez, on pense davantage...
Non, mais son lycée, « j'aime ma boîte ». Oui. C'est les petites entités, l'éducation nationale, ça, ils ne doivent pas... Mais là où je me suis mal exprimée peut-être, quand je dis que le rapport a changé, pas du tout, on a le même attachement à l'entreprise, c'est tout à fait exact. C'est le socle de confiance. Je veux dire, dire, on a confiance dans la boîte plus que dans n'importe quoi. C'est d'ailleurs un énorme succès depuis que ça existe. J'aime ma boîte, mais le rapport, j'allais presque dire à l'autorité du patron, entre guillemets, le rapport du salarié a complètement changé. Quand on vous dit, mais non, on a peur du patron, on peut être viré, etc., mais pas du tout. Alors, attention, il y a des grandes entreprises, des petits patrons caractériels, des DRH qui sont formidables. Donc, il n'y a pas une unité. Mais le salarié, ça a basculé, c'est lui qui a la main. Je veux dire que, je le répète, vous vous faites engueuler par votre patron. Bon oui, vous êtes en congé maladie le lendemain parce que ça va.
C'est mais peut-être si, un peu caricatural quand
mais
même,
pas du
Sophie.
Tout. Les DRH vous disent attention, vous ne pouvez pas lui dire. Hein. Il faut faire très attention.
Ça dépend déjà ce qu'on appelle à engueuler, si c'est insulter quelqu'un ou si ça, c'est pas convenable. Mais de faire des reproches, j'imagine que les
des
patrons.
Des reproches, bien sûr, je dis engueuler.
Voilà,
parce que
les patrons,
déjà,
forcément, peuvent parfois recadrer s'ils le pensent, en tout cas.
Ben, c'est très difficile et d'ailleurs, tant mieux si. Ils n'ont pas à le faire et c'est l'objectif. Bon. Mais je veux dire que on a plus peur. C'est le salarié à la main.
On va demander. Tiens, on va demander. Oui. On va faire un mini sondage. Par exemple, Damien.
Oui, Pascal.
Damien, vous, est-ce que votre N+1 de temps en temps vous fait des reproches dans l'entreprise?
Rarement.
Mais vous êtes parfait aussi.
Mais quand il vous vous en fait, vous avez le sentiment que le d'abord, est-ce que c'est justifié? Est-ce que le ton convient?
Et vous n'allez pas vous mettre. Le ton convient, et après on peut discuter avec lui directement.
Bah voilà, vous n'allez pas vous mettre immédiatement quand même en congé maladie.
Ah non.
Bon.
Non, quand même pas.
C'est important, effectivement, ce rapport. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on dit souvent ça, nous, on bosse depuis un moment, donc on a le sentiment que les jeunes n'ont pas le même rapport que nous. Mais en même temps, quand j'ai commencé à travailler, j'imagine que ceux qui avaient 60 ans disaient qu'on ne travaillait pas comme eux. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est une antienne de ce point de vue-là. 14h08, on marque une pause. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
J'aime ma boîte, c'est la 19e année. On est avec Sophie de Menton qui dirige cette opération et puis qui est patron également depuis toujours. C'est un état d'esprit d'être patron, d'être entrepreneur. C'est au fond des gens qui auraient du mal toute leur vie à être salariés. Hein, les entrepreneurs, et vous avez monté votre boîte à quel âge?
20 ans.
Voilà, donc c'est un état d'esprit d'être entrepreneur.
Oui, mais il y a des entreprenants et des intrapreneurs. Et si vous saviez ce que c'est bon dans une boîte, j'en ai eu plein, d'avoir des gens qui se comportent comme des entrepreneurs, qui ont leur service, qui disent ça, il faut faire ça, là, non, c'est pas possible, on peut faire un marketing pareil.
Alors, on a retrouvé Philippe, et pardonnez-moi de vous couper, mais comme c'est un peu le principe des auditeurs de leur donner la parole, Philippe, qui est formateur, je disais tout à l'heure, vous rencontrez depuis tant d'années des gens sur le terrain.
Sur le terrain.
Est-ce que vous avez le sentiment que le rapport à l'entreprise a changé?
Non, pas forcément. Alors, ça dépend des entreprises, parce que c'est varié. Comme je le disais, vous avez des chefs d'entreprise qui prennent soin de leur personnel. Moi, j'ai vu des employés heureux, qui étaient heureux.
Oui, j'espère.
Il y avait un état d'esprit qui était bien. Et j'ai vu d'autres entreprises où on avait des employés qui n'étaient pas heureux parce qu'on était dans la productivité, la rentabilité. Et on oublie la personne par rapport à l'objectif de rentabilité, productivité. Après, vous avez des entrepreneurs qui se plaignent du manque de personnel. Mais là, moi, comme je leur dis, quand on paie les gens avec des cacahuètes, on a des singes. Parce que des fois, il y a des technologies qui sont de plus en plus pointues où on demande un niveau de qualification de plus en plus élevé, mais on ne paye pas le salarié. Je prends, par exemple, la maintenance des véhicules industriels ou des véhicules d'engins de chantier. C'est une technologie qui augmente avec de l'informatique, de l'électronique, etc. Mais on les paye toujours à coup de lance-pierre. Alors les gens, ils disent, on trouve personne. Bah oui, bah payez-les et puis vous aurez du personnel. Parce que moi, je vois des jeunes, en plus, qui sont compétents, qui en veulent, qui se battent.
Philippe.
Et finalement, ils n'ont pas les récompenses voulues, en fait.
Vous êtes formateur. C'est quoi la première qualité d'un bon patron, selon vous? La première.
Savoir fédérer, c'est son personnel. Les mettre autour d'un objectif. Et en plus, quand il a des chefs de service, tout le monde peut faire des erreurs. Et la qualité d'un chef de service ou d'un chef d'entreprise, quand c'est lui qui fait l'erreur, il se doit en bon chef de reconnaître que c'est lui qui a fait l'erreur et ne pas se décharger sur ses employés. Ça, c'est la qualité.
Ça, c'est une qualité. C'est quoi le défaut à éviter?
D'être suffisant, arrogant, et puis en plus, ne pas écouter des fois ses sachants. Parce que des fois, le chef d'entreprise peut aller dans l'erreur. Ça peut arriver, et ça, ce n'est pas. Il faut savoir dire, eh ben oui, je me suis trompé. Mais il y en a un qui dit, ah ben non, moi j'ai toujours raison. Et même si on va droit dans le mur, eh bien, cette arrogance-là, eh bien, automatiquement, ça pénalise le chef d'entreprise. On dit, ouais, de toute façon, il n'écoute rien, on a beau lui dire, on a beau...
Mais ça, c'est aussi quelque chose que j'entends auprès de tous ceux qui gouvernent depuis toujours, que ce soit dans la politique, dans un vestiaire de football, dans une entreprise, etc. C'est le patron n'écoute pas. Et en fait, il écoute quand même le patron parce qu'il est éponge. Mais j'entends toujours, on dit ça d'Emmanuel Macron, par exemple. Qu'est-ce qu'on dit d'Emmanuel Macron ? Il gouverne tout seul, il n'écoute personne, etc. C'est-à-dire qu'il y a un moment, et Sophie de Menton, quand tu diriges, il y a tellement de gens qui viennent te donner peut-être leur avis, leur conseil, il y a un moment peut-être que tu en as assez, quoi, et tu t'écoutes toi-même.
Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, et alors je fais exactement le contraire. Moi, je trouve que j'ai un mal fou à ce que les salariés s'impliquent. Je leur dis, écoutez, engueuler n'est pas le bon mot, mais je vous engueulerai jamais si vous avez pris un risque. Si vous n'avez rien fait en disant, bah non, j'osais pas, etc., ça vous fera engueuler. Je trouve que c'est très difficile que les gens deviennent responsables, etc. Je demande des conseils et j'ai beaucoup de difficultés parce que je vois des gens arriver dans mon bureau qui disent, ah, viens, je vais vous demander toutes les deux minutes. Je dis, alors, si vous êtes à ma place, quelle est la réponse? Dans 90 cas sur 100, ils me donnent la réponse. Je dis, bah voyez, c'est pas la peine de venir. Donc, je
vous
crois
avez combien
que...
d'employés?
J'ai la boîte que j'ai vendue, j'en avais 1500. Là, c'est beaucoup
plus.
Si
tout le monde vient dans le bureau, effectivement, toute la journée, c'est compliqué.
Non, non, mais là, c'est autre chose. C'est un mouvement patronal, plus ma petite boîte qui n'a rien. Mais un mouvement patronal, c'est aussi des clients, c'est aussi des salariés, etc. Et je trouve qu'en France, on ne donne pas la culture de responsabilité. Les gens aiment bien les demander conseils. Moi, je ne suis pas d'accord.
Donc, il faut qu'ils soient autonomes. Bah, merci, Philippe, en tout cas, de votre témoignage. On va être avec Sophie. Une autre Sophie dans une seconde. Sophie, j'aime ma boîte, mais notre ami Olivier, qui est jeune, c'est votre première entreprise, RTL, Olivier.
Exactement, parce qu'elle est la première.
Eh bien, vous savez que vous avez beaucoup de chance.
Énormément, je sais.
Mais parce que c'est une entreprise prestigieuse.
Mais
c'est vrai que dans le salarié, moi j'avais connu ça quand j'avais commencé à TF1, j'étais fier de travailler à TF1 parce que c'était une entreprise qui était leader. Et quand vous arrivez à 22, 23 ans à RTL, bah vous, quand vous dites à vos amis, par exemple, je travaille à RTL, j'imagine que vous avez un petit moment de fierté.
Oui, après c'est vrai qu'ils m'écoutent et voilà, ils se font un tout autre avis.
Mais non, mais la fierté de la boîte, c'est
important. Oui, mais bien sûr, mais évidemment.
Bien
évidemment.
Sûr, c'est important.
Sur nos pages Facebook et Twitter, Pascal Evelyne nous dit « C'est bizarre, grâce au sondage, tout va bien dans les entreprises. » Amandine écrit dans le même sens « Je pense que la réalité est tout autre. 65% qui apprécient leur entreprise, ça me paraît élevé. » Et on conclut avec Gwenola « J'aime les gens avec qui je travaille, mais plus du tout ma boîte, malheureusement. »
Alors ça, c'est très important. Parce que travailler avec des gens que tu n'aimes pas, il ne s'agit pas de partir en vacances, mais que tu n'estimes pas. Parce que le mot « aimer » est peut-être galvaudé. Dans la vie professionnelle, je trouve qu'il y a un sentiment qui remplace peut-être l'amitié, parce que les amitiés, bon, on les garde peut-être quand on est très jeune, et puis c'est compliqué à mettre en place, mais c'est l'estime professionnelle. Travailler avec des gens qu'on estime, dont on apprécie la qualité intellectuelle, la qualité d'action, je trouve que c'est un sentiment très fort. Et quand on arrive à être un groupe dans l'entreprise, ce qui est le cas de notre petite équipe, là, le plaisir qu'on a à se retrouver aujourd'hui, je trouve que c'est très important, c'est très motivant.
C'est fondamental et vous êtes très déprimé quand vous bossez, parce que ça arrive très souvent dans un service avec des nuls, entre guillemets, qui ne sont pas nuls. Il y a beaucoup de gens qui disent pas possible dans l'équipe, sont mauvais. Je veux dire, ça arrive à certains moments, ça change, etc.
Moi,
j'ai
eu la chance d'échapper à ça.
Oui, mais je suis sûr que le président de la République n'échappe pas à ça.
Oui, bah, s'il pense qu'il travaille avec des nuls, lui, il a peut-être le pouvoir d'en changer.
Bah, pas forcément.
Mais c'est important, je trouve, de travailler en équipe, c'est
très
agréable.
Important. Mais alors, ce qui était important, c'est qu'il faisait la différence en disant j'aime bien mes collaborateurs et j'aime pas ma boîte.
Oui.
Et là, il y a quelque chose que je ne comprends pas parce qu'effectivement, la boîte, c'est une entité. C'est à la fois le patron, les salariés, le climat.
Oui, mais on peut aimer 4-5 personnes dans le service et puis voir que la boîte est périclite.
Il aime bien sa boîte un peu, alors.
Et bah, ouais, vous êtes positive.
Oui.
Là, c'est quelque chose, c'est un trait important pour un patron d'être positif, objectif, d'y croire toujours, la volonté du patron. De ne jamais douter, tout en doutant. C'est un peu particulier d'écouter, mais de ne jamais douter.
Passer sa vie à trouver... Alors, c'est drôle, c'est quelque chose que je dis tous les jours. Je veux des solutions. On arrive, on me dit, bah, là, il ne pourra pas, hein, c'est pas possible. Je leur dis le matin...
Trouvez-moi
des
solutions.
Tous ceux qui ont gagné au loto... On a acheté un billet.
La pause, c'est... Oui, la pause, pardonnez-moi, je vous coupe la parole, c'est mal poli. Aujourd'hui sur RTL, tous les auditeurs qui interviennent sur l'antenne remportent la BD événement de cette fin d'année, Astérix et le Griffon. On pourrait peut-être donner à madame... de Menton, un Astérix. Bien sûr, Astérix bien sûr. Et de Griffon en version luxe, en plus, aux éditions Albert René, en partenariat avec RTL. Vous aimez, vous lisez Astérix ?
Oui, j'adore Astérix.
C'est vrai ?
Ah oui.
Vous savez, le quantième aventure, j'ai posé la question tout à l'heure, le quantième numéro que c'est cette fois-ci ? 39. 39 aventures, vous vous rendez compte ? Ah, ça rigole pas. Hein. 14h18, c'est un magnifique succès. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
J'aime ma boîte, peut-être que ça se passe pas toujours bien. Phileas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ambulancier, vous êtes jeune, vous avez 21 ans.
Oui, c'est ça.
Pourquoi ça se passait pas très bien ?
Alors, j'ai arrêté là il y a une semaine, donc je ne suis plus dans cette boîte. Moi, ça se passait pas très bien parce que c'était mon premier travail et vraiment j'adorais ce travail. Mais c'est la relation avec le patron où on a eu beaucoup de mal, beaucoup de désaccords. Et peu
mais par exemple, parce que moi j'aime bien les exemples concrets.
Les exemples concrets, par exemple, vous savez qu'en ambulancier on a besoin de matériel pour l'ambulance, que ce soit des compresses, etc. Et on a des dates de péremption. Et ben, on a remonté plusieurs fois au patron. Attention, la date de péremption, ça arrive bientôt. Puis le temps avançait, mais bon, on peut pas commander à leur place. Et le problème, c'est qu'arrivé au jour de la date de péremption, et ben une fois qu'on a fait un transport. On a été contrôlé à la fin du transport, ils ont vu que le matériel était périmé et c'est retombé sur nous.
Ah ça c'est pas bien parce que c'était le patron qui était responsable dans l'exemple, si ce que vous dites est tout à fait exact. Donc vous avez démissionné ?
J'ai démissionné mais c'est pour plusieurs autres raisons, hein. c'est surtout parce que j'ai un autre projet, je pars au Canada à la fin de semaine. Donc voilà, mais sinon oui, j'ai démissionné en partie aussi quand même à cause de ça.
Et pardon, mais vous avez démissionné de quelle façon ? Vous avez fait une rupture
Et justement, alors il y a la rupture conventionnelle, voilà. Sauf que mon patron n'a pas accepté. Donc on est parti par la, je ne me présente plus au travail.
Oui, c'est ça, par non-présentation.
Voilà, non-présentation au travail et ça enchaîne sur une faute grave et ensuite un licenciement.
Alors c'est d'ailleurs, enfin moi je trouve que c'est quelque chose qui est pas très éthique parce qu'effectivement, alors il y a des gens comme vous, c'était la seule solution puisqu'il a pas voulu de rupture ni reconnaître, très bien. Mais il y a énormément du petit métier, les commerçants, les coiffeurs, j'ai vu ça. Vous vous présentez pas, 3 lettres recommandées, vous êtes automatiquement au chômage et dans les secteurs où il y a du boulot, ils en retrouvent immédiatement. Et donc.
C'est sûr, mais c'est dommage parce que moi éthiquement, c'est vrai que j'aurais aimé partir sans avoir cette idée de. C'est quand même une faute grave. Donc c'est...
Mais ça, je vous comprends.
Voilà, c'est éthiquement, j'aurais préféré qu'on parte.
Il est 14h23. Phileas, je suis obligé de vous couper parce que ça va être le débrief. Je vais remercier Sophie de Menton. Vraiment, merci à vous. J'aime ma boîte. C'est toujours intéressant de vraiment concilier des intérêts qui ne sont pas antagonistes, avez-vous dit, entre les salariés et les patrons. Donc merci à vous. Et puis le débrief, vous pouvez rester avec nous pour l'écouter avec Laurent Tessier.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
C'était l'une des questions du jour.
Aimez-vous votre entreprise ?
Oui.
Oui, je suis d'accord, moi aussi.
Ouais, on sent que les demandes d'augmentation arrivent. C'est aujourd'hui la 19e édition de l'opération J'aime ma boîte.
Merci patron.
Sophie de Menton, présidente du mouvement patronal éthique, était avec nous. Et je vais pouvoir me lâcher dans ce débrief, n'est-ce pas Sophie ?
Vous savez quoi ? Devant un salarié, moi, je m'écrase.
Eh bien, allons-y, lâchons les bêtes. Posons une question qui fâche. Passe-t-on trop de temps avec nos collègues ? Tiens, Pascal, par exemple.
Et c'est vrai qu'on passe, une banalité de le dire, mais on passe plus de temps, parfois, avec Laurent Tessier que je vois ma fiancée dans la semaine.
Absolument. Mais du coup, ça marche très bien avec votre fiancée. Moi, elle vous voit.
Moi, c'est agréable. Et puis, mais c'est pas faux.
D'ailleurs, si vous pouviez éviter, Pascal, de laisser traîner vos chansons dans le bureau, ce serait super. Sinon, Sophie a fait un constat très intéressant.
On ne trouve plus personne pour bosser.
Ouais, je suis d'accord avec vous, Sophie. C'est bien pour ça que nous avons recruté Monsieur Boubouk. Olivier, il était le seul sur le marché. Alors, que représente-t-il pour vous au standard ? Vous a-t-il marqué depuis le début de la saison ? Un avis, Marilyn ?
Moi, j'ai surtout entendu que le pauvre, il s'est fait planter un rendez-vous.
Ah oui, exactement.
Oui.
Bon, je crois que là, Monsieur Boubouk mérite un nouveau jingle.
Le loser de la semaine.
Ah, c'est bien noté. Mobilisons-nous pour Monsieur Boubouk, aidons-le à trouver l'amour.
Si vous pouvez faire quelque chose pour lui, je pense que c'est si vous connaissez quelqu'un ou quelqu'une en l'occurrence, peut-être.
Je peux peut-être arrangé. Surtout qu'il a l'air d'être fort sympathique, Olivier.
Mais il est fort sympathique. Ça, je suis d'accord avec vous.
Me dites donc, Marilyn, muy caliente l'ambiance dans cette émission. Sinon, aujourd'hui, Patrick nous a dit à quelle heure il se levait.
Je me suis levé ce matin.
Ah bah oui.
Quand j'ai entendu ça chez vous à la radio à 5h du matin, j'ai dit mais c'est n'importe quoi.
Et pourquoi vous vous levez si tôt à 5h du matin?
Parce qu'on travaille à 5h du matin, monsieur Courbet.
Moi, c'est pro.
Et comment va Agnès Bonfillon qui présente les flashs sur l'antenne?
Ah bah. Pardon, mille excuses pour cette petite toux. Bonjour Pascal Pro. Ah
oui, mais vous me faites peur, parce que moi, c'est pour ça que j'arrivais un peu en retard. Parce que si vous toussez... je suis vacciné.
Nous voilà rassurés, mais ami Pascal sait mettre en avant le moindre événement. C'est un showman, il pourrait vous vendre n'importe quoi.
Nous sommes humains.
Mais je trouve ça, c'est formidable. Tout ce qui est à l'antenne devient à l'antenne, est formidable pour l'antenne.
Bien sûr. Ah, Damien Béchu, notre réalisateur, me dit que Patrick, notre auditeur, a une dernière chose à nous dire.
Bon après-midi.
Merci.
Et puis, dans 6 mois, on va se faire prendre une pilule dans le nez.
Le rendez-vous est pris. Quittons-nous avec une chanson.
Ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau.
Bah, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On arrête là, on préfère quand même l'original.
C'était pas des amis de luxe, des petits castors et Pollux.
Demain, on fera un centenaire, Georges Brassens, qui célébrera l'anniversaire de sa naissance, 100 ans, et il est décédé il y a 40 ans. Il est né le 22 octobre 1921, il est décédé le 29 octobre 1921. 81. Vous vous rendez compte, il y a 40 ans que Brassens est mort. C'est fou, hein. Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime.
Oui,
avec vous.
Aujourd'hui, le roi de l'évasion, le roi de la belle, Nino Ferrara. Tout de suite, 14h30, heure du crime.
À demain.